France Inter, il est 21h. Les infos, Anne-Sophie Balbir.
Le pape Léon XIV vient d'arriver en hélicoptère près de Rome pour une veillée en plein air. C'est le jubilé année sainte organisé tous les 25 ans par l'Église catholique. À des centaines de milliers de jeunes sont présents pour l'événement, rassemblés sur l'immense esplanade de Tor Vergata. La plupart d'entre eux passeront la nuit sur place jusqu'à la grande messe de clôture demain. L'Allemagne, soutien fidèle d'Israël, de plus en plus critique sur la guerre à Gaza. Berlin déclare dans un communiqué que l'État hébreu demeure tenu de garantir une fourniture complète de l'aide humanitaire. Différentes options de pression sont sur la table. Elles sont discutées sans qu'aucune décision ne soit prise pour le moment. Parmi ces pistes, un arrêt partiel des livraisons d'armes à Israël. 21 Palestiniens ont été tués aujourd'hui à cause de tirs et de bombardements. Bilan de la défense civile gazaoui. Un scandale de corruption dévoilé en Ukraine. Les autorités ont découvert un vaste système de fraude orchestré par des fonctionnaires sur des commandes de drones et d'équipements de guerre électronique. Des responsables politiques locaux, des membres de la garde nationale sont accusés d'être impliqués. 4 personnes ont été arrêtées. Cette affaire est révélée peu après un tollé autour d'une loi sur l'indépendance des instances anticorruption. Un enfant d'une dizaine d'années a disparu en mer cet après-midi à Gravelines dans le Nord. Les recherches pour tenter de le retrouver ont été interrompues en début de soirée. Un signalement avait été déclenché par 3 enfants. 2 d'entre eux ont pu regagner la plage par leurs propres moyens. Légèrement blessés, ils ont été transportés au centre hospitalier de Dunkerque. C'est une information du ministère de l'Intérieur qui est tombée à la mi-journée. Une saisie historique de drogue en Polynésie française. 1646 kilos de cocaïne, 232 kilos de méthamphétamine ont été trouvés sur un voilier intercepté mi-juillet aux îles Marquises. Les stupéfiants chargés au Mexique devaient rejoindre l'Australie selon le parquet de Papeete, un circuit connu des douanes et des forces armées. Manuel Valls défend sur Facebook l'accord de Bougival signé le 12 juillet sur un état de la Nouvelle-Calédonie. Il y a 2 jours, le parti indépendantiste l'a rejeté. Le ministre des Outre-mer assure que le texte n'est pour autant pas menacé. Il dit qu'il va réunir le comité de rédaction dès que possible en août à Nouméa afin de commencer à affiner et consolider les projets de loi constitutionnels et organiques afin de lever les ambiguïtés et de clarifier l'esprit de l'accord pour tous les Calédoniens. Et puis Pauline Ferrand-Prévot porte le maillot jaune sur le Tour de France 2025. La championne olympique de VTT s'est imposée au sommet du col de la Madeleine. La victoire finale lui tend les bras. Il ne reste qu'une dernière étape demain. Pauline Ferrand-Prévot devant à 2 minutes 30 d'avance sur sa dauphine, l'Australienne Sarah Gigante.
Des noms célèbres.
Est-il normal que je sois placé en garde à vue?
Des dates gravées dans la mémoire.
Paris outragé.
Des récits où le pouvoir vacille.
Right here, we're gonna walk down to the Capitol.
Où les vérités s'échappent.
On peut venir vous chercher parce que des personnes ont déclaré quelque chose et vous foutre en tôle.
Où le réel dépasse la fiction. Une heure pour replonger dans ces histoires. Celles qui dérangent, qui fascinent, qui obsèdent.
Affaires sensibles, c'est si bon de se mêler des affaires des autres.
À retrouver sur l'appli Radio France.
France Inter, il est 21h03, c'est l'histoire secrète de la French Touch avec Mathieu Culeron.
C'est quoi la French Touch?
C'était un petit peu comme des pionniers qui découvrent l'Eldorado.
L'histoire secrète de la French Touch.
Ils inventaient quelque chose. Voilà, il y avait une idée de mouvement.
30 témoins, 30 ans d'archives et d'anecdotes inédites.
C'est pas mal votre truc, vous êtes en même temps hyper pointu, hyper expérimentaux, mais hyper populaire, les gens adhèrent.
Daft Punk, Cassius, Justice, Nile Rodgers. Les coulisses de la French Touch par ceux qui l'ont fait.
C'est quoi la French Touch? Ça ne voulait pas dire grand-chose.
C'est un sacré bleu, Dimitri, oui, baguette.
Un podcast de Mathieu Culeron et Stéphane Jourdain.
La French Touch, c'est ça finalement l'histoire à raconter. À la recherche du succès, puis à la fin c'est Daft Punk qui gagne, quoi.
Épisode 9, les Daft Punk deviennent des robots.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
attention,
2, 1.
Technologic.
Happy 2000. Bienvenue à l'an 2000.
On est devenus des robots là. On faisait de la musique dans notre studio en septembre 99 et il y a eu une explosion avec le bug et on a eu quelques problèmes. Et...
Thomas Bangalter, moitié de Daft Punk.
Et depuis, on est devenus des robots. Donc c'est intéressant parce que maintenant, on n'aura plus besoin de mettre des masques et on peut montrer nos nouvelles têtes de robots.
Vous aviez besoin de ça ?
Non, mais les accidents, on les prédit jamais.
Le storytelling est parfait, il est maîtrisé.
Pedro Winter.
Quel coup de génie.
Ancien manager des Daft Punk.
Donc là, 99, le bug de l'an 2000, comment se réinventer, comment s'approprier une nouvelle identité. Et ben, ces masques de robots, au début, peuvent faire sourire. En 99-2000, moi je me souviens qu'effectivement, faire avaler la pilule du bug de l'an 2000, c'est pas facile. Je crois même qu'on cherchait pas trop à l'expliquer, hein, d'ailleurs, parce qu'on était tous un peu fébriles quant à l'explication. Mais force est de constater qu'avec le temps, on a complètement oublié ce détail de la transformation de Daft Punk. Aujourd'hui, Daft Punk, effectivement, ça fait aucun doute, ce sont les deux robots. Et on ne cherche pas à savoir qui est Thomas ou qui est Guyman. Thomas, c'est le silver et Guyman, c'est doré.
Non, malheureusement, il n'y a pas de système de réfrigération.
Guy Manuel de Homem Christo. Moitié de Daft Punk.
Des fois, quand on joue à 35 degrés avec 90% d'humidité, c'est vraiment très dur. Mais donc non, il n'y a pas de clim ou de réfrigération ou quoi que ce soit. Et puis, il y a un intercom, des micros qu'on a pour parler ensemble, pour communiquer pendant le concert, pour bien le faire. Mais sinon, c'est l'équivalent de faire de la Formule 1, mais debout pendant une heure et demie. Donc, c'est peut-être moins long que la Formule 1. Et puis, on prend moins de risques. mais on a aussi chaud et par contre on n'a pas de petites pipettes avec des bidons d'eau, donc ça c'est...
On commence à avoir l'habitude de ces conditions de performance.
Thomas Bangalter, moitié de Daft Punk.
Donc au départ c'était peut-être plus difficile, mais ça fait relativement longtemps comme ça qu'on s'est transformé sans faire de concert et maintenant en faisant. Donc c'est des conditions difficiles, mais elles correspondent vraiment à la façon dont on veut et se présenter, et on est un peu aussi les acteurs de ce spectacle et de cet univers qu'on amène au public.
Contrairement à ce que la plupart des gens disent.
Maya Masbeuf, directrice artistique chez Virgin.
Oui, c'est du marketing, etc. Au départ, ça ne l'était pas. C'était vraiment une manière artistique de comment préserver leur vie privée et continuer à être présent au niveau du grand public.
Ben voilà, il a fallu un peu de temps pour imposer les personnages, mais ça a été assez rapide quand même. Je crois qu'on en parle pendant la fabrication de Discovery. On est, je sais pas, en 98-99. Discovery, c'était vraiment entre le disque, en tout cas la vision et l'ambition du disque, le dessin animé avec Leiji Matsumoto, la transformation des robots. On était dans un chantier proche de la rénovation de Notre-Dame. C'était un truc pharaonique, gigantesque.
On va terminer en musique ce journal avec de la techno et le deuxième album de Daft Punk. Comme leur nom ne l'indique pas, ils sont français et ils sont même, avec Laurent Garnier et Saint-Germain, les références de la French Touch, la touche française plébiscitée aussi bien aux États-Unis qu'au Japon.
Ça, par contre, je me rappelle très bien avoir vraiment le moment privilégié de la première écoute de Discovery chez Guy Manuel.
Antoine Kenobi, consultant pour le label Kitsune.
Il met une petite chaise en face de sa chaîne IFI et il ferme la porte et il dit « Je viens te revoir dans une heure ». Et je sais que à la fin, il a joué le truc, j'ai fait « Encore ». Et il me l'a rejoué une fois, et donc on a dîné après. Il a fallu attendre qu'on bouffe pour que je le réécoute encore. Ça, j'en ai un souvenir très précis.
Discovery, c'est un tournant. Odile Deplace, journaliste chez Trax.
En fait, on est convoqué à l'époque pour écouter l'album dans le plus grand secret. On vient 10 par 10 dans un grand appart près de la place du colonel Fabien. Il y a des colonnes, des enceintes en colonnes de super qualité. Et là, on nous fait écouter le disque. C'est un choc parce que c'est pas du tout Homework, c'est pas du tout la même musique. Moi j'écoute, je me prends une claque et je rentre à la rédaction et j'attends que les autres aillent l'écouter. Donc on était convoqués à tour de rôle. Les autres reviennent de l'écoute et là je me rappelle qu'il y avait un de mes collègues qui dit « Ah non mais j'ai détesté, j'ai cru que j'allais vomir mon pain en chocolat en l'écoutant ». Et moi je suis outrée, je me dis mais non, mais c'est pas possible, ils ont rien compris. Donc il y a un débat sans fin dans la rédac, on n'est pas d'accord, il y en a qui détestent, il y en a qui adorent. On décide évidemment d'en faire quand même l'album du mois, parce que c'est les Daft Punk et que tout le monde attend. Et on fait un pour-contre. Je fais le pour. Et Patrice, mon collègue, fait le contre. Et là, lui, il sort la sulfateuse pour défoncer l'album. Parce que lui, il est un petit peu plus âgé que moi. Et toutes les références des années 80, pour lui, c'est le pire de la musique. Et moi, c'est la musique avec laquelle j'ai grandi. Donc ça remue plein d'émotions. C'est effectivement TNCC, c'est les Buggles, c'est Prince. Donc c'est ouais, c'est la pop italienne, la disco italienne des années 80, c'est FR David. Je sais pas, le Rondo Veneziano, moi j'aimais pas ça, mais ça me fait marrer, j'écoutais ça à la télé, c'était Michel Drucker. Donc voilà, moi j'explique en fait dans ma chronique que si Homework était un disque bilan de toutes les années techno, celui-là est un disque charnière. Donc j'ai relu ma chronique, j'étais pas mécontente de ce que j'avais écrit. Je fonds complètement pour cet album, je me dis que c'est incroyable de passer d'un truc aussi underground à un truc aussi populaire. Et pour moi, c'est une collection de tubes.
David Guetta, Bob Sinclair, ils ont fait des carrières internationales de tubes, ce que tu veux. David, il peut dire qu'il a 50 millions de tubes, mais ça sera jamais un dixième des Daft au niveau de l'effet que ça a fait sur une culture de jeunes.
Hubert Boumbass, moitié de Cassius.
C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tu as succès. Et eux, c'est vraiment, je prends ça, et parce que c'est cette partie-là qui a réellement influencé à cette époque-là, nous tous. On s'est dit waouh.
J'étais emballé par l'album. One More Time, je me rappelle que c'était un peu plus compliqué l'écoute, mais finalement, je pense que One More Time, ça a été pour beaucoup de monde l'occasion d'entendre un disque de leur groupe préféré dans la fête du village, quoi. Et ça, peut-être qu'il y a des gens qui n'en sont pas revenus.
C'est vrai que moi, le One More Time, j'aimais pas le morceau, et en fait...
Étienne de Crécy.
Moi, j'attendais ça avec vachement d'impatience, et c'est vrai que le... Et One More Time, pour moi, ça a été la claque à l'envers.
Il y a des gens qui ont moins apprécié Discovery comme moi, qu'il y a des gens, c'était l'inverse.
DJ Falcon.
Je me souviens qu'il y avait cette petite polémique avec le traitement de voix de One More Time, parce qu'il y a eu Cher qui avait utilisé ce même traitement. Et voilà, et comme toujours avec les dates, c'est qu'au bout d'un moment, tout le monde prend une claque et tout le monde réalise que, bah oui, c'est des patrons, quoi, pour la ligne.
Alors One More Time, oui, pour moi c'est le meilleur morceau de l'album aujourd'hui. C'est avec Romantoni, c'est vraiment un morceau que je passe sans me lasser jamais. C'est-à-dire que il y a tout le talent des Daft Punk qui est concentré dedans. C'est la compression, c'est les progressions, et puis c'est un chanteur de house music. Et moi j'adorais la house music comme ça. On m'appelait Madame House Pouet Pouet. J'aimais bien la. Non mais j'adorais la house vocale. C'est Romantoni, mais c'est un peu le prince de la house music. Il a une voix absolument incroyable et c'est une façon pour moi de faire connaître Romantoni au plus grand monde. Et One More Time, c'est devenu un classique même des mariages aujourd'hui. Donc je trouve ça incroyable d'avoir réussi à faire de la house music un classique des mariages.
Oh yeah, all right, don't stop the dancing.
Non, j'ai très bien compris pourquoi ils avaient sorti One More Time, quoi. Je crois qu'il y avait l'ambition de vendre des disques, de ils ont toujours eu ce côté super grand public, si tu veux, Daft Punk. Après, sur l'album Discovery, il y a des morceaux que j'aimais bien, c'est les morceaux... Les morceaux que j'aimais, il y avait Aérodynamique, ou les morceaux qui sortaient un peu, qui avaient des... sortaient de l'ordinaire, si tu veux. Ces morceaux-là, je les trouve super bien.
Moi, c'était Harder Faster, ça m'a... Ouais. Je me suis bon, d'accord.
Philippe Zdar, moitié de Cassius, 2005.
On était devenus potes, donc ils me l'ont fait écouter. J'ai pris une claque énorme, j'étais dégoûté. Ils m'ont forcé à écouter, je voulais pas. Ah ouais, je te l'ai dit, c'était l'enfer. On est tous allés ensemble à Londres. Moi, je disais dans le train, j'y vais pas. Et Thomas disait, non, venez, non, on y va pas. Non, allez, on vient. À la fin, on y va, on fait l'écoute et... Et donc ça nous a mis une barre, c'est-à-dire qu'on s'est dit à nous, pas influencer sur la zik, mais en tout cas dans notre musique à nous, on veut que ça soit aussi bien que, genre, il faut qu'on les éclate, ces enculés. On s'est jamais dit ça, mais au fond de toi, c'est ça que tu te dis. J'ai eu certainement une période, je me rappelle très bien, où je faisais des morceaux qui ressemblaient aux leurs. La chance que j'ai, c'est que je les ai jamais sortis. Parce que j'ai eu le même écueil que tout le monde, à un moment donné, tout ce que je faisais, ça ressemble aux Daft Punk. Ils étaient quand même super forts, les Daft, hein, tu vois, c'est un groupe comme il n'y a pas beaucoup, quoi.
L'éternelle compétition. Daft Punk Cassius.
Pedro Winter.
Là, on le dit avec le sourire, parce que tu peux être les meilleurs amis du monde dans la vie. Il y a une compétition légitime, naturelle, qui existe. Et Cassius, c'est ça. Maintenant, encore une fois, avec le recul, on peut le dire avec le sourire, et notamment Boom Bass, Hubert le dit lui-même. À chaque fois que Daft Punk faisait quelque chose, Cassius se lançait dans la course, mais se cassait la gueule. C'est ça, finalement, l'histoire qui serait assez fascinante à raconter. En tout cas, si jamais il y a un scénariste ou un réalisateur ou une réalisatrice de française qui veut remporter le César 2029, il faudrait se lancer là-dedans, dans cette guéguerre ou cette compétition Daft Punkienne, Cassius, à la recherche du succès. Puis, à la fin, c'est Daft Punk qui gagne, quoi. Thank you.
L'histoire secrète de la French Touch. Épisode 9. Les Daft Punk deviennent des robots.
Je me suis rien dit, on n'arrêtait pas de me dire, t'as vu, ils t'ont samplé, j'avais même pas reconnu.
C'est Ron.
3 ans après, ils sont venus me voir pour faire les éclairer. J'ai vraiment apprécié. Ça a ouvert les portes, disons. D'un seul coup, les Français, on n'était pas des copieurs, c'était intéressant. Fallait écouter. Daft Punk, pratiquement tous les titres, ils ont eu des samples de partout. Mais c'est un son, ils se l'approprient, ça devient comme une chanteuse qui peut chanter une chanson de Piaf, mais d'un seul coup, c'est plus Piaf, c'est la mélodie de Piaf, mais c'est à elle. On a plein d'exemples comme ça. Daft Punk est un exemple, ils ont un vrai son à eux, quoi.
Discovery, c'était la fin de la French Touch. Tu peux plus vraiment rien faire avec les samples sans que ça soit un peu ridicule par rapport à ça, quoi, je pense. C'est la fin, c'est le tiré de rideau, voilà. C'est presque genre, regardez ce qu'on peut faire avec la French Touch quand on arrêtait de faire vos trucs. Regarde ce qu'on peut faire.
C'était l'exigence artistique qui comptait pour eux.
Maya Masbeuf.
C'était pas de faire des tubes, mais c'était de faire des bonnes chansons, des bons titres.
On m'a demandé de faire un remix du morceau Too Long de Discovery.
Chili Gonzalez.
Ben, moi, j'ai pris ça plus qu'en faire un remake. Et je me suis dit, je vais faire semblant que la version Too Long de Daft Punk est une reprise ou un remix d'un morceau un peu 70, un peu qu'on appelait le Yacht Rock. Tu vois, le truc un peu décadent, hyper bien produit, avec des sonorités, studio hyper professionnel, hyper brillant et shiny et lisse. Et moi, je l'ai un peu reconstruit comme si c'était un tube de Yacht Rock et je l'ai chanté moi-même. Il y avait même un changement de tonalité à la fin. Le truc vraiment classique.
It's been much too long, I feel it coming on. The feeling is getting strong. It's been much too long. I feel it coming on. The feeling's in my bones.
Il y a plein de morceaux des Daft où on peut maintenant se rendre compte. On peut les reprendre de telle manière. Mais en 2000, c'était peut-être... J'étais peut-être un des premiers à un peu faire cette connexion avec mon oreille qui aime bien trouver les équivalents, mon oreille qui préfère jouer un morceau au piano pour trouver sa vraie squelette, enlever toutes les références, enlever tout ce qui fait que oui, le French Touch, c'est avec des filtres, c'est avec un gros pied. Pour moi, Daft Punk, c'était des purs songwriters qui ont bien sûr choisi des instruments et un esthétisme qui était assez nouveau. Mais moi, j'ai entendu une âme assez classique dans le sens où un morceau de Daft Punk, surtout les morceaux chantés avec des paroles, ce sont vraiment des classiques qu'on pourrait imaginer dans plein de styles. C'est vraiment intemporel.
At last, the long wait is over. The weight is off my shoulder. I'm taking on control. My mind is set so free. I'm where I want to be to get the best of me.
You know you
quoi. J'aime beaucoup ce disque.
Benjamin Diamond, du groupe Stardust.
Je pense que Thomas, il cristallise vraiment toute cette culture. On a le même âge, hein, tu vois, donc des années 80. C'est lié, en fait, à une période, en fait. C'est comme, pas musicalement, mais c'est comme Stardust. C'est-à-dire, pour pas mal de gens, en fait, c'est lié à l'inconscient collectif. Pour moi, c'est cet album Discovery, c'est vraiment une période de ma vie.
À suivre, épisode 10, la pyramide des Daft Punk.
Le son était d'une puissance phénoménale, en plus les robots, les trucs, là, enfin, la pyramide, il y avait ce côté mystique, c'était un ovni leur truc. Stronger.
L'histoire secrète de la French Touch est un podcast de Mathieu Culeron et Stéphane Jourdain. Épisode 10, la pyramide des Daft Punk.
France Inter.
Ils devraient une nouvelle fois avancer visage masqué, c'est leur marque de fabrique. Ce soir à Bercy, les Daft Punk reviennent 10 ans après leur dernier concert à Paris. Depuis, le duo électro-français a parcouru le monde avec 6 millions d'albums vendus, ce n'est pas rien. La French Touch marche et en plus, ces musiciens peuvent se vanter sur les...
Peut-être un peu plus stressé que d'habitude avant de monter sur scène parce que ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas joué.
Guy Manuel de Homem Christo, moitié de Daft Punk.
Quand on est de Paris, c'est toujours un peu, peut-être un peu plus dur. On s'attendait pas du tout à ce que ça se passe aussi bien en fait, donc on était très surpris. Ouais.
les deux Daft nous choisissent avec Kavinsky pour faire la première partie de leur live sur toute la tournée.
Sébastien.
Et donc on se retrouve, la deuxième fois où je les vois, c'est sur le parking d'une ancienne usine Philips à Hambourg, où ils avaient stocké la pyramide pour démarrer la tournée. Et on débarque avec Kavinsky. Et pour moi, le truc le plus drôle, c'est qu'ils avaient choisi les deux types, mais sans le savoir, qui avaient le moins de rapport au club de tout. Les personnes autour, on n'avait aucun rapport à ça. Donc on arrive là-bas, il y avait les tourbus de près, et Thomas genre va pour nous montrer la pyramide avec une fierté méritée du truc. Vinko c'est Kavinsky, Vinko qui est Vinko, genre mate la pyramide, il fait une espèce de sketch sur leur, genre ah ouais super les Égyptiens et tout, genre ils sont un peu de leur gueule. Et c'est là qu'on a vu dans leurs yeux, ils se sont dit genre, attends, en quoi est-ce qu'on s'est embarqué pour un an? Mais en même temps, au bout de 3 jours, ils étaient morts de rire dans le tourbus. Et là, on a vraiment passé beaucoup de temps ensemble parce que une tournée entière, en fait.
Une semaine, 16 000 tickets.
Pedro Winter, ancien manager des Daft Punk. 2007.
Donc désolé pour ceux qui n'ont pas pu acheter leur place, désolé pour ceux qui n'ont pas vu la pub. C'est vrai qu'on a fait, on a joué vachement sur une communication virale, c'est-à-dire qu'on a annoncé la mise en vente des places sur le net. Et c'est vrai que finalement, on a été un peu surpris par le succès, puisqu'on a vendu, je crois, 7 000 ou 8 000 places, ne serait-ce que grâce à cet email. Donc c'est vrai qu'il n'en restait plus que 8 000 à vendre. Donc on a fait un petit affichage. Nous, on est super contents. Et voilà, et ça va être un gros show. On ramène les 7 tonnes de matériel, les lumières, les écrans. Il y aura des hits de Daft Punk qu'on n'a pas entendus pendant Belfort ou Coachella. Mais sinon, en tout cas, au niveau des visuels et graphiquement, ça ressemblera à quoi? Ça sera ce qu'on a vu sur YouTube ou pour les chanceux qui ont été à Belfort.
À l'époque, c'est littéralement hallucinant de voir un truc pareil parce qu'il y a une dimension vraiment Las Vegas. C'est un truc d'une ampleur. Peut-être qu'aujourd'hui, ça correspondrait à l'équivalent d'un show très de base dans un truc, mais à l'époque, c'est hallucinant de voir un truc pareil.
Les écrans LED, ouais. Première fois qu'on voit des écrans LED.
Antoine Kenobi, consultant pour la marque Kitsune.
D'ailleurs, il raconte, hein, Thomas, qu'ils ont dû convoquer tous les écrans LED qui traînaient aux États-Unis pour rassembler, ne serait-ce que pour faire cette scénographie. C'est une pyramide avec devant un écran LED qui s'illumine.
C'était une pyramide qui était un peu en deux morceaux.
DJ Falcon.
Tu avais les DAF qui étaient à l'intérieur de la pyramide, avec le haut de la pyramide, un peu comme en lévitation, tu vois. Et il y avait des LED projetés sur la pyramide. Et derrière, il y avait un espèce de mur de néon, mais en forme de pyramide. Enfin, c'était des mini-pyramides. Enfin, tout était bien réfléchi, il y avait une cohérence. Le son était d'une puissance phénoménale. En plus, les robots, les trucs, la pyramide, il y avait ce côté mystique. C'était un ovni, leur truc.
J'ai failli ne pas y aller.
Odile Deplace, journaliste chez Trax.
Et puis bon, à la dernière minute, je me dis, non, j'ai quand même pas passé à côté d'un concert des Daft Punk, c'est un peu bête. Donc je chope une place, j'y vais, et là, je me prends une claque énorme. Je me retrouve à danser, c'est un méga mix. Ils vont réussir à fusionner les 3 albums. Homework, il y a Discovery et il y a Human After All. Et là, c'est à ce concert que je vais comprendre Human After All. C'est à ce concert que je vais réaliser à quel point ce son plus dur les fait retourner vers la techno qui m'a tant marqué.
À Bercy, je pense que ça a été une des claques de ma vie, un des concerts les plus incroyables que j'ai vu.
Romain Tranchard, du groupe Mojo.
Visuellement, c'était absolument magique, c'était d'une force complètement incroyable. Il y avait cette représentation symboliste avec le delta et la pyramide. Il y avait pas mal de choses qui étaient dingues, et puis leur compilation de tubes remixés, réinterprétés. Ils jouaient avec leur catalogue, c'était à la fois vivant, littéralement vivant, mais pas que musicalement, aussi sur le plan de la lumière, de l'énergie. Je me rappelle qu'on était dans un carré VIP, il y avait le père de Thomas, il y avait pas mal de gens, et à la fin, quand les lumières se sont rallumées, enfin bref, on s'est regardé, on était littéralement choqués, quoi. C'est complètement extraordinaire.
Il transforme Bercy en une boîte de nuit géante. On avait déjà eu des boîtes de nuit, on avait eu le Zénith, on avait des fêtes M6, machin, qui nous faisaient des espèces de fausses rêves commerciales. Mais là, il y a toute une génération qui écoute Daft Punk depuis 10 ans et qui va communier sur ses sons. Et ça, c'est un disque, pour moi, vraiment, que je réécoute régulièrement en me disant... Ils sont DJ et producteur en même temps. Ils fusionnent les deux figures essentielles de la techno, le DJ et le producteur, et ils arrivent à nous faire danser. Et en fait, on les regarde, mais sans les regarder. J'ai vraiment des souvenirs de vagues sonores.
Patate sérieusement fort, avec cette science du mash-up, c'est-à-dire de mélanger les morceaux, de réinterpréter, qui est devenue la norme de tous les lives de musique électronique. Non mais ce live-là, il est assez fondateur en termes de posture et de proposition dans l'entertainment. Ça a 18 ans et finalement, ça n'a pas pris de ride.
Moi, j'en ai fait, j'ai dû en faire entre 30 et 35 des concerts.
DJ Falcon.
J'ai beaucoup regardé le public parce que je faisais des photos et en faisant des photos, j'ai beaucoup observé le public et je me suis très vite aperçu que le public, leur visage et la joie qu'il y avait, j'avais rarement vu ça dans les concerts. Il y avait une explosion de joie. Je pense que les gens se rendaient compte, comme moi, ils se rendaient compte que c'était spécial. Ils se rendaient compte qu'ils vivaient un truc un peu unique. C'était palpable, ça se voyait sur le visage, c'était presque une évidence. Les gens se regardaient entre eux, tu sentais qu'ils vivaient, il y avait une communion, il y avait ce truc. Comme j'ai pu le vivre dans des clubs, tu sais, des fois, t'as ces moments de communion.
J'ai des souvenirs de gens qui étaient au premier rang, qui étaient genre, qu'est-ce que c'est que ça ?
Sébastien.
Il y a vraiment des gens qui ont eu une sensation de voir des ovnis, il y avait quelque chose qui n'était pas réel. Il y avait des gens, mais j'ai vu des gens qui pleuraient. Ils étaient là genre, mais qu'est-ce que j'ai vu ?
On connaît l'efficacité des DAF. Pas de répit, quoi. Les gens étaient embarqués dans un truc non-stop. Et puis eux, en soi, je veux dire, les casques, ça reste... Quand tu les regardes encore aujourd'hui, ça a passé l'épreuve du temps. Tu sais, quand tu regardes même ne serait-ce que des Star Wars, il y a des choses qui ne vieillissent pas comme ça.
Et puis il y a eu le petit épisode des portables quand il y a le rappel et qu'on part de scène et qu'on revient après.
Guy Manuel de Homem Christo, moitié de Daft Punk.
Entre les deux, quand on n'est pas sur scène, il y a tout le monde qui a ouvert ses portables. Ça, on l'avait déjà eu un peu dans tous les concerts qu'on a fait, mais un petit peu. Et là, vraiment, c'était toute la salle qui était comme ça, illuminée d'une constellation de portables, un peu comme les briquets de l'époque, mais avec des téléphones. Et ça, c'était un moment qu'on a un petit peu vu, mais moins bien que tout le monde. Enfin, tout le monde a partagé ce moment, apparemment. Ça a été un moment un peu, peut-être, qui fait partie de la communion, entre guillemets, dont tu parlais. Je sais pas. Nous, on a senti qu'il y avait quelque chose d'un peu spécial, mais je crois que c'est surtout le public qu'on fait ce feeling spécial de la soirée.
À l'époque, les portables commencent à avoir des vidéos, mais c'est très pixelisé.
Sébastien.
Et je suis dans le tourbus et j'entends Thomas passer souvent des coups de fil au fond du bus, etc. Et on lui demande est-ce qu'il veut filmer le show pour pouvoir le vendre derrière, etc. Et en fait, il se met à voir que les vidéos qui tournent sont très pixelisées et donnent l'impression que le truc est quasi ovniesque, que c'est comme les gens qui ont filmé des ovnis. Et d'un coup, il dit, non mais en fait, on va pas le filmer. C'est ça qu'il faut laisser. En fait, c'est la mystification de la chose. De toute façon, c'est tout leur travail était là-dessus. C'est comment tu mystifies de manière très classe les choses. Et je me dis, mais ouais, le type est génial. C'est-à-dire qu'il se dit vraiment, Genre, vas-y, on s'en fout du business de vendre le... Déjà, il y a aussi le côté t'y étais ou t'y étais pas. Ça, je trouvais ça génial.
Et à l'époque, ce qui est rigolo aussi, c'est que ils sortent pas de clip.
Odile de Place.
Enfin, ils sortent un clip, mais avec les premières vidéos que les gens filment en concert. Alors à l'époque, on a quand même des téléphones, c'est un petit peu plus évolué que le Nokia, mais pas tellement plus, hein. L'iPhone n'existe pas. Donc on filme avec des smartphones, des vidéos hyper pixelisées, et plutôt que de sortir un clip, ils vont demander à un mec de monter tout ça, et ce sera le clip officiel de ce concert. Et YouTube vient de naître, enfin Facebook arrive, et on découvre le web 2.0, et ils font participer les spectateurs à travers leurs vidéos, à ce live vidéo officiel. Parce qu'il n'y aura pas de DVD en fait. C'est le live officiel, il est sur YouTube, libre d'accès.
Et on avait tous entendu parler de Coachella par ces petites vidéos.
Romain Tranchard, du groupe Mojo.
Avec le cadre mal filmé, la saturation. Tu vois que c'est la folie, t'entends cette excitation, mais t'as aussi la c'est un teasing absolument magistral, quoi.
Bah, on a pensé aux gens justement qui n'avaient pas pu venir et qui auraient aimé, ou qu'on... mais après avoir vu tout ce qu'il y avait sur YouTube depuis qu'on avait fait Coachella, où déjà dès le lendemain il y avait beaucoup de choses, et après avoir fait beaucoup d'essais de différentes manières à filmer le show nous-mêmes et passer du temps là-dessus, on s'est rendu compte que le plus proche peut-être de l'expérience du concert en lui-même, c'était ce qu'il y avait sur Internet et qui était déjà là depuis un moment. Donc il y a des milliers déjà de posts sur YouTube qui, peut-être par la mauvaise qualité en même temps, par les tremblements et la musique saturée, en fait, est le plus proche du show en lui-même, beaucoup plus que de filmer et de retrouver, qui était souvent beaucoup plus stérile ou beaucoup plus clean, beaucoup plus... ce qui rendait pas le côté un peu frénétique qu'il y a sur YouTube. Donc ce qu'on a fait l'édition limitée du CD, c'est et qui passe à la télé aussi en clip, c'est le clip d'Olivier Gondry, qui est à mi-chemin entre le côté un peu cru comme ça de YouTube et un concert live peut-être normal. Donc c'est quelque chose qui est entre les deux, avec le talent d'Olivier en plus et son montage hyper original comme ça. Filmer le concert en entier, on a essayé et ça rendait pas ce qu'on voulait, ou c'était, ça s'éloignait de ce qu'était le concert.
L'histoire secrète de la French Touch. Épisode 10, la pyramide des Daft Punk.
C'est le premier live documenté en vidéo de l'histoire.
Antoine Kenobi.
Donc en fait, le live, on l'avait déjà vu. En fait, y a, par les montages, il n'y a pas 400 personnes avec eux, hein, Coachella. Hein. Le crew est assez réduit, hein, finalement. On l'a tous vécu. Moi, je l'ai vécu sur la route avec Sébastien en première partie et Kavinsky. C'était épique.
Bah, c'était incroyable, vivre dans un tourbus avec les Daft.
Kavinsky.
C'est rigolo, quoi. En même temps, c'est sûr qu'on passe du casque avec des lumières, un tourbus avec un mec, c'est chaud cette salle. Je sais pas, c'est toujours les Daft Punk en fait. Voilà, moi c'est les gens, je les remercierai jamais assez.
Kavinsky, c'est le meneur de troupe, c'est le mec qu'il faut emmener en tournée. Parce que
Sébastien.
Je dis pas qu'il a sauvé la situation, mais on était tous quand même des gens relativement calmes. Et en fait, le truc s'est effectivement transformé. Il y avait une partie du show des Daft qui était le show des Daft et l'autre partie du show des Daft qui était Kavinsky dans le tourbus, quoi. Il nous a fait littéralement pisser de rire. Kavinsky qui rentre dans la tente où il se changeait, parce qu'il y a un moment où il se changeait vraiment comme des vrais robots. T'avais une sorte de micro-tente, cage dans laquelle t'avais les casques qui étaient dans des trucs hyper protégés et tout. Et nous, avec le temps, c'est pas qu'on désacralisait la chose, mais c'est qu'on n'arrêtait pas de voir tout ce qui se passait en cuisine, quoi. Il y avait un côté, je sais pas comment dire, il y avait un côté voyage de classe, quoi.
Et c'est vrai qu'on tourne avec ce spectacle depuis avril 2006.
Thomas Bangalter, moitié de Daft Punk.
La tournée se termine au Japon et en Australie jusqu'à Noël, là. Et c'est vrai que, et voilà, et finalement, on a toujours pris chaque date avec le maximum d'enthousiasme et de concentration. Même si le spectacle de Paris, voilà, la salle et l'endroit et Bercy et la symbolique comme ça de tout ça était vraiment peut-être plus concret que certains autres concerts qu'on ait pu faire cette année.
Aucun doute, le duo français le plus célèbre du monde a changé de catégorie avec cette tournée mondiale. Ils rivalisent désormais avec la démesure des plus grands groupes de rock.
Bah, à l'époque, on trouvait que c'était monumental. Aujourd'hui, ce serait la scéno de je veux pas être méchant, mais d'un truc, ça fait 10 mètres de haut, alors qu'aujourd'hui, non, mais Anima, voilà, Anima, c'est 400 mètres en écran high definition. À côté, ça semblerait être le stand de Merguez, quoi. J'exagère. Non, mais il y avait un milliard de bonnes idées, beaucoup de bon goût. C'était révolutionnaire. Par contre, j'avoue qu'un gamin qui est allé à Ultra Music Festival le week-end dernier, tu l'amènes devant ça, il va trouver ça un peu petit.
On a abordé ce spectacle avec un concept et une approche totalement différente de ce qu'on a fait il y a 10 ans, qui était beaucoup plus...
Thomas Bangalter.
Purement basé sur la musique, avec beaucoup d'improvisation et de schémas et de choses aléatoires comme ça. Et finalement, des choses qui sont devenues relativement faciles à faire par les machines elles-mêmes aujourd'hui. Et c'est vrai que là, on a une approche qui était beaucoup plus basée sur le spectacle et la combinaison de la musique et de l'image, des lumières et de cette interaction comme ça un peu entre la réalité et la fiction avec ces personnages de robots qu'on incarne. Donc on imagine, on termine cette tournée après un an et demi dans à peu près 4 ou 5 semaines. Je pense pas qu'on aura la volonté de refaire la même chose dans 2 ans, 3 ans ou 4 ans, ou à ce moment-là, voilà, trouver une nouvelle approche ou un nouveau concept qui puisse être valide et intéressant pour nous. On a eu l'impression, avec ce spectacle, avec cette tournée, et maintenant avec ce disque, de faire quelque chose qui était relativement... nouveau ou différent au sein de cette musique électronique comme ça, et c'est ça qui peut-être nous motive. Donc c'est vrai que ça nous a fait plaisir là de faire un concert d'un nouveau type ou qui est difficilement classable, et finalement de sortir ce disque un live comme ça de musique électronique qui est pas vraiment un format courant. Je pense que principalement, nous, on essaye de faire des choses qui stimulent l'imagination à la base, que ce soit musicalement, visuellement, avec notre film ou avec les dessins animés qu'on a pu faire, avec la musique et les albums le font. On a l'impression que ce spectacle, pendant cette tournée, où bon, c'était peut-être difficile, mais bon, on a joué à Belfort, on a joué à Paris, on a joué aux Arènes de Nîmes, dans des endroits assez grands, et on espère avoir pu jouer devant les gens qui voulaient vraiment nous voir aussi. Mais c'est vrai que le spectacle aussi, on a l'impression que cette stimulation, elle existe dans ce disque, dans ce CD.
À suivre, épisode 11, le renouveau Headbanger.
Alors moi, je m'appelle Xavier Doronet. Je suis la moitié de Justice, la moitié réveillée parce que l'autre moitié dort encore.
Love. Histoire secrète de la French Touch est un podcast de Mathieu Culeron et Stéphane Jourdan. Réalisation, Josépha Lebrun et Stéphane Le Guenec. Mixage, Rémi Sistiaga, Anne-Laure Cochet.
17h56. 17h58. L'enfer, le périph. 18h.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées.
Bel été.